Tom Jones ou Histoire d'un enfant trouvé, livre 7, contenant 3 jours. Chapitre 1er, comparaison entre le monde et le théâtre. On a souvent comparé le monde au théâtre, et beaucoup de graves auteurs ont, ainsi que les poètes, considéré la vie humaine comme un grand drame, ressemblant presque dans tous ses détails à ces représentations théâtrales dont on rapporte que Thespis a été le premier inventeur, et qui ont été reçus depuis avec autant d'applaudissements que de plaisir chez toutes les nations policées. Cette comparaison a été poussée si loin, elle est si généralement employée, que quelques mots qui ne convenaient autrefois qu'au théâtre, et qui furent d'abord appliqués métaphoriquement au monde, s'emploient de nos jours indifféremment et littéralement pour tous deux. Ainsi, l'usage a voulu que nous nous servissions aussi familièrement des termes « théâtre » et « scène » quand nous parlons de la vie en général que quand nous ne parlons que d'une représentation dramatique. Et lorsqu'il est question de ce qui se passe derrière la toile, nous pensons plutôt au cabinet de St. James qu'au théâtre de Drury Lane. Il me semble que tout ceci s'explique aisément, si l'on veut réfléchir que le drame n'est rien de plus qu'une représentation ou, pour me servir des termes d'Aristote, qu'une imitation de ce qui existe réellement. Il en résulte que nous devrions peut-être, en conscience, les plus grands éloges aux auteurs et même aux acteurs qui ont le talent d'imiter les scènes de la vie au point de laisser croire, en quelque sorte, qu'elles se passent réellement sous nos yeux. Mais, il faut le dire, nous ne sommes pas disposés à les louer. Nous les traitons, au contraire, comme les enfants traitent assez souvent leurs joujoux, et nous avons beaucoup plus de plaisir à les siffler qu'à admirer l'excellence de leur talent. Beaucoup d'autres raisons encore nous ont engagés à examiner cette analogie qui existe entre le monde et le théâtre. Quelques personnes ont considéré la plupart des hommes comme des acteurs, représentant des caractères qui ne sont pas plus les leurs et auxquels ils sont aussi étrangers que le comédien, qui voudrait sérieusement se faire passer pour le roi ou l'empereur qu'il représente. Ainsi, l'on peut dire que l'hypocrite est un comédien, et il est de fait que les Grecs n'avaient pour tous deux qu'un seul et même nom. La brièveté de la vie a encore donné lieu à cette comparaison. J'en citerai pour exemple ces vers de l'immortel Shakespeare. « L'homme est un pauvre acteur. En gestes superflus, il s'épuise un moment sur la scène du monde. Sur l'immortalité, son fol orgueil se fonde. Il quitte le théâtre et l'on n'en parle plus. » Je demande pardon au lecteur de lui avoir cité un ouvrage si connu. Je vais, pour l'en dédommager, lui en citer un autre qui l'est beaucoup moins et dont le sujet a quelque chose de plus noble. Je veux parler du poème intitulé « De la divinité », publié il y a 9 ans environ et déjà oublié depuis longtemps. Preuve que les livres utiles ne survivent pas plus aux frivoles que les hommes vertueux aux méchants. Tout ici-bas, grand Dieu, n'agit que par tes lois. Tu soutiens les États, tu fais tomber les rois. Le temps ouvre à tes yeux son immense théâtre. Là, tu vois ces héros que le monde idolâtre, précédés et suivis de 1000 autres héros, se carrer sur la scène et vanter leurs travaux. Tu vois porter en pompe et briller leurs images. Tu les vois renversés par le torrent des âges. Les victimes des rois, leurs superbes amis, les vaincus, les vainqueurs à tes ordres soumis, toutes les passions de la nature humaine viennent jouer leur rôle un moment sur la scène. Telle donne à l'univers ses ordres absolus. Tu fronces le sourcil, le fantôme n'est plus. On enviait hier sa haute destinée, il n'est plus, voilà tout, la pièce est terminée. Mais dans toutes ces comparaisons et autres semblables entre la vie et le théâtre, on n'a jamais considéré que la ressemblance entre les acteurs. Personne, si je m'en souviens bien, ne s'est occupé des spectateurs de ce grand drame. Cependant, comme les jeux de la nature ont souvent pour témoin une foule nombreuse, pourquoi ne pas comparer entre eux les spectateurs aussi bien que les acteurs? Dans cette salle immense du théâtre du temps, les amis et les critiques sont placés au milieu les uns des autres. On y entend à la fois des acclamations et des battements de mains, des murmures et des sifflets. En un mot, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend au théâtre royal. Donnons-en un exemple. Je le prends parmi les nombreux spectateurs de la scène, que la nature a bien voulu nous offrir dans le 12e chapitre du livre précédent, où elle introduit Black George, s'éloignant précipitamment de son ami et de son bienfaiteur, après lui avoir volé 500 livres. Je suis bien convaincu que ceux qui sont assis dans la galerie d'en haut jugent cet incident suivant leur usage, et ne lui épargnent probablement aucun cri de fureur, aucun terme injurieux, aucun reproche outrageant. Si nous descendons un peu plus bas, nous trouverons un égal degré d'horreur, mais nous entendrons moins de bruit et d'injures. Nous y verrons cependant les bonnes femmes donner Black George au diable, et s'attendre à chaque minute à voir Lucifer apparaître avec ses pieds fourchus pour enlever sa proie. Le parterre formera sans doute deux parties suivant l'usage. Ceux qui aiment les vertus héroïques et les caractères parfaits trouveront mauvais que l'on mette sur la scène de tels scélérats sans les punir très sévèrement, ne fût-ce que pour l'exemple. Quelques amis de l'auteur s'écrieront « Cela est vrai, messieurs, cet homme est un scélérat, mais quoi que vous en disiez, ce caractère est dans la nature. » Cependant, tous les jeunes critiques du siècle, les clercs des procureurs et les apprentis, trouveront que rien n'est plus indécent, et feront entendre de violents murmures. Quant aux loges, elles se conduiront avec leur politesse accoutumée. Un grand nombre s'attendait à autre chose. Quelques-uns du petit nombre de ceux qui n'ont rien perdu de la scène conviennent hautement que c'est un bien méchant homme. D'autres, enfin, refusent de donner leur opinion avant d'avoir entendu celle des meilleurs juges. Pour nous qui sommes admis dans les coulisses de ce grand théâtre de la nature, et tout auteur qui n'a pas ce privilège ne devrait écrire que des dictionnaires et des grammaires, nous pouvons blâmer cette action, sans cependant détester absolument celui qui s'en est rendu coupable, et que la nature n'avait peut-être pas destiné à jouer le rôle de méchant dans tous ces drames. Car, en suivant la métaphore, la vie ressemble encore plus exactement au théâtre, en ce que c'est souvent le même personnage qui représente le scélérat et le héros, et que nous mépriserons probablement demain celui qui attire aujourd'hui notre admiration. Nous avons vu Garrick, que je regarde comme le plus grand génie que le monde ait jamais produit pour les rôles tragiques, descendre souvent jusqu'à jouer les rôles de fous. Nous lisons dans Horace que le grand Scipion et le sage Lélius se permettaient les mêmes folies. Cicéron rapporte qu'ils étaient incroyablement enfants. Il est vrai que, comme mon ami Garrick, ces hommes célèbres ne jouaient les rôles de fous que par plaisanterie. Mais combien de fameux personnages, dans je ne sais combien de circonstances de leur vie, ont joué les rôles de fous si naturellement qu'il y avait lieu de douter si la sagesse ou la folie était leur caractère dominant, et s'ils avaient plus de droit aux applaudissements qu'à la censure, à l'admiration qu'au mépris, à l'amour qu'à la haine du genre humain. Il faut en conclure que ceux qui ont passé quelque temps dans les coulisses de ce grand théâtre et sont parfaitement instruits non seulement des divers déguisements que l'on y emploie, mais encore de la conduite fantasque et capricieuse des passions, qui en sont les seules administratrices et directrices, car on sait que la raison au nom de laquelle les privilèges ont été obtenus est excessivement paresseuse et ne s'en mêle que rarement, cela, dis-je, doivent très probablement avoir appris le sens exact et littéral du fameux nil admirari d'Horace, c'est-à-dire à ne rien admirer. Une seule mauvaise action ne constitue pas plus un scélérat dans la vie qu'un seul rôle de méchant sur le théâtre. Les passions, comme les directeurs de théâtre, forcent souvent les hommes à jouer des rôles sans consulter leur opinion, et quelquefois sans avoir égard à leur talent. L'homme peut, ainsi que le comédien, condamner le rôle qu'il joue. Je dis plus, il est assez commun de voir le vice ne pas mieux aller au visage de certaines personnes que le caractère d'Iago n'irait à la figure honnête de M. William Mills. Il résulte de tout ceci que l'homme intègre et d'un jugement sain n'est jamais prompt à condamner. Il peut censurer une imperfection, un vice même, sans se mettre en fureur contre le coupable. En un mot, ce sont les mêmes folies, les mêmes grossièretés, les mêmes enfantillages et les mêmes méchancetés qui, dans la vie ainsi que sur le théâtre, excitent des cris et du tumulte. Les hommes les plus méchants ont toujours à la bouche les mots de scélérat et de coquin, comme les plus mauvais juges sont toujours prompts à s'écrier dans le parterre « C'est bien mauvais !» Chapitre 2. contenant une conversation de M. Jones avec lui-même. Jones reçut de bonne heure dans la matinée les effets qu'il avait laissés chez M. Allworthy, ainsi que la réponse suivante à sa lettre. « Monsieur, c'est par les ordres de mon oncle que je vous annonce que, n'ayant agi avec rigueur envers vous qu'après la plus mûre délibération et la plus complète évidence de votre indignité, vous feriez de vains efforts pour changer quelque chose à sa résolution. Il n'a pas été peu surpris de la présomption avec laquelle vous dites que vous résignez toutes vos prétentions relativement à une jeune dame, sur laquelle il est impossible que vous en ayez jamais eu aucune, sa naissance et sa fortune l'ayant élevée si fort au-dessus de vous. Enfin, j'ai ordre de vous dire que la seule preuve d'obéissance que mon oncle exige de vous, c'est que vous quittiez immédiatement le comté. Je ne puis terminer ce billet sans vous donner en bon chrétien le conseil de songer sérieusement à réformer votre vie. Je vous souhaite à cet effet le secours de la grâce. Ce sera la constante prière de votre humble serviteur, W. Blifil. » Cette lettre excita dans l'esprit de notre héros un grand nombre de passions contraires. Sa sensibilité l'emporta à la fin sur l'indignation et sur la colère. Un torrent de larmes vint fort à propos à son secours et le garantit probablement de la folie ou du désespoir. Mais il rougit bientôt lui-même de sa faiblesse et, se levant, il s'écria « Eh bien donc, je donnerai à M. Allworthy la seule preuve qu'il exige de mon obéissance. Je vais à l'instant, mais où ? Ah, laissons au hasard à me conduire. Puisqu'il n'y a plus sur la terre une seule personne qui mette la plus légère importance à ce que deviendra un malheureux tel que moi, je dois y mettre la même indifférence. M'occuperai-je seul de ce dont nul autre ? Ah, n'ai-je pas une raison de croire qu'il y en a une autre qui a plus de prix pour moi que le monde entier ? Je puis, je dois croire que ma Sophie n'est pas indifférente à ce que je deviendrai. Abandonnerai-je donc cette unique amie ? Et quelle amie ? Ne dois-je pas plutôt rester auprès d'elle ? Où ? Comment puis-je rester auprès d'elle ? Ai-je quelque espérance de la revoir jamais, quand elle le désirerait autant que moi-même, sans l'exposer à la fureur de son père ? Et pour quel dessein ? Qui, moi, la solliciter de consentir à sa ruine ? Pourrais-je en concevoir l'idée ? Voudrais-je satisfaire ma passion à ce prix ? Me cacherais-je dans le pays, comme un voleur, avec des intentions aussi coupables ? Non. J'en méprise, j'en déteste la pensée. Adieu, Sophie, adieu la plus aimable, la plus aimée. » Il ne put achever, un torrent de larmes calma son extrême agitation. Enfin, après avoir pris la résolution de quitter le comté, il se demanda à lui-même de quel côté il porterait ses pas. Le monde, pour me servir d'une expression de Milton, se découvrait devant lui, et Jones, aussi abandonné qu'Adam, n'avait personne à qui il pût demander ni consolation ni secours. Toutes ses connaissances étaient celles de M. Allworthy, et que pouvait-il en attendre, quand ce digne homme lui avait retiré sa protection ? Les hommes puissants, qui ont le cœur bon et sensible, doivent bien réfléchir avant d'abandonner ce qui dépend d'eux, car la cruelle conséquence qui en résulte pour le malheureux disgracié est d'être aussi abandonné de tout le monde. Quel genre de vie allait-il embrasser ? Quelle carrière allait-il courir ? Telle fut la seconde question qu'il se fit à lui-même, et l'avenir qui s'offrait à ses yeux lui présentait un vide épouvantable. Il passait en revue toutes les professions, tous les genres de commerce. Il n'y en avait pas un seul qui n'exigeât un long apprentissage et qui pisait de l'argent. Car le monde est constitué de manière que la maxime que rien ne se fait avec rien est aussi vrai en physique qu'en politique, et que tout homme qui est absolument sans argent est par cela seul entièrement dépourvu de tous les moyens d'en acquérir. À la fin, l'océan, cet ami hospitalier des malheureux, lui ouvrit ses bras puissants pour le recevoir, et il prit sur-le-champ le parti d'accepter sa consolante invitation. Pour parler un langage moins figuré, il se détermina à s'embarquer. Cette idée ne lui fut pas plutôt venue qu'il l'embrassa avec ardeur. Il loua sur-le-champ des chevaux et partit dans ce dessein pour Bristol. Mais avant de l'accompagner dans son expédition, nous retournerons un moment chez M. Weston, l'intérêt que nous prenons à la charmante Sophie étant sans doute partagé par tous nos lecteurs. Chapitre 3. Contenant divers dialogues. Dans la matinée du jour où Jones partit pour Bristol, Mrs. Weston fit monter Sophie dans son appartement. Et, après l'avoir instruite qu'elle était enfin parvenue à obtenir sa liberté de son père, elle se mit à lui débiter un long sermon sur le mariage. Elle s'était bien gardée de traiter ce sujet sous un certain rapport, en le lui présentant à la manière des poètes et des romanciers, comme une source de félicité quand il est fondé sur l'amour. Elle n'y faisait mention d'aucun des motifs pour lesquels les théologiens nous enseignent à le regarder comme une institution divine. Elle le considérait plutôt comme une banque, où les femmes prudentes déposent leur fortune avec le plus d'avantages et dont elles retirent un intérêt plus fort qu'elles ne pourraient se le procurer ailleurs. Aussitôt que Mrs. Weston eut fini, Sophie lui répondit qu'elle n'était nullement en état de discuter avec une personne d'un esprit aussi supérieur et d'une expérience aussi consommée que l'était sa tante, particulièrement sur un sujet dont elle s'était aussi peu occupée. « Discuter avec moi, petite fille, répliqua sa tante, assurément je n'attends pas cela de vous. Vraiment, il m'aurait bien peu servi d'avoir vu le monde, si j'en étais réduite à discuter avec un enfant de votre âge. Si j'ai pris tant de peine, ce n'a été que pour vous instruire. Les anciens philosophes, tels que Socrate, Alcibiade et un grand nombre d'autres, n'avaient pas l'habitude de discuter avec leurs disciples, et vous devez me considérer, mon enfant, comme Socrate, non pas vous demandant votre opinion, mais vous informant seulement de la mienne. » Le lecteur conclura peut-être de ces derniers mots que cette dame ne connaissait pas davantage la philosophie de Socrate que celle d'Alcibiade, et nous sommes bien fâchés de ne pouvoir satisfaire sa curiosité sur ce point. « Madame, s'écria Sophie, je n'ai jamais été assez présomptueuse pour oser contester aucune de vos opinions. Et quant au sujet en question, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, je ne m'en suis jamais occupé, et peut-être ne m'en occuperai-je jamais. » En vérité, Sophie, répliqua la tante, cette dissimulation avec moi est un véritable enfantillage. Les Français me persuaderaient plutôt qu'ils ne prennent des villes à leurs voisins que pour se mettre en état de défense, que vous ne parviendriez à me faire croire que vous n'avez jamais pensé sérieusement au mariage. Comment pouvez-vous persister à nier que vous ayez pensé à contracter une alliance quand vous savez si bien que je connais intimement la personne avec laquelle vous désirez la contracter. Alliance aussi contraire à la nature et à votre intérêt que le serait aux intérêts de la Hollande une ligue particulière avec la France. Mais cependant, si vous ne vous êtes pas jusqu'ici occupé de ce sujet, je vous avertis qu'il est grandement temps d'y penser, car mon frère est résolu de conclure sans délai son traité avec M. Blifil. Et je m'en suis en quelque sorte rendu garante, et j'ai promis votre consentement. Hélas, madame, s'écria Sophie, cette occasion est la seule où je dois désobéir à vous et à mon père, car ce mariage est de nature à ce que je n'ai point besoin de réfléchir longtemps pour le refuser. Si je n'avais autant de philosophie que Socrate lui-même, répliqua Mrs. Weston, vous épuiseriez ma patience. Mais dites-moi, quelle objection avez-vous contre le jeune homme ? « Une objection très solide, à mon sens, dit Sophie. Je le hais. »« N'apprendrez-vous jamais, répondit la tante, à vous servir d'une expression convenable ? En vérité, mon enfant, vous devriez consulter le dictionnaire de Bailey. Il est impossible que vous puissiez haïr un homme qui ne vous a fait aucun mal. Or, quand vous dites que vous le haïssez, vous ne voulez rien dire de plus, sinon qu'il vous déplaît. Ce qui n'est pas un motif suffisant pour vous de refuser ce mariage. » J'ai connu je ne sais combien d'époux qui avaient une complète aversion l'un pour l'autre, et qui menaient une vie fort supportable, assez douce même. Croyez-moi, mon enfant, je sais tout cela mieux que vous. Vous m'accorderez, j'espère, quelques connaissances du monde. Eh bien, je n'ai pas une seule amie qui n'aima mieux se laisser supposer de l'aversion que de l'amour pour son mari. La conduite contraire est une sottise qu'on ne voit plus que dans les romans, et tellement passée de mode que l'idée seule en est devenue choquante. « Eh bien, madame, répliqua Sophie, je vous proteste que je n'épouserai jamais un homme pour lequel j'aurai de l'aversion. Si je promets à mon père de ne jamais consentir à aucun mariage contraire à sa volonté, je crois qu'il m'est permis d'espérer qu'il ne me forcera jamais à épouser un homme que repousse mon inclination. » Inclination, s'écria la tante avec quelque chaleur. Inclination. Je m'étonne de votre audace. Une jeune fille de votre âge parler d'inclination. Mais quelle que puisse être votre inclination, le parti de mon frère est pris. Et puisque vous parlez d'inclination, je m'en vais lui conseiller de conclure le traité au plus tôt. Inclination. Sophie alors se précipita aux pieds de sa tante, et des larmes coulèrent de ses beaux yeux. Elle la supplia d'avoir pitié d'elle, et de ne pas la punir si cruellement de ce qu'elle ne voulait pas se rendre malheureuse à jamais. Elle insista surtout sur ce qu'elle était la seule intéressée dans cette affaire, et qu'il s'agissait de son propre bonheur. Tel qu'un huissier, bien et dûment autorisé par une sentence de prise de corps rendue contre quelque infortuné débiteur, lorsqu'il s'est saisi de sa personne, voit toutes ses larmes sans en être attendri, le malheureux qui se voit pris fait d'inutiles efforts pour exciter sa compassion. En vain lui présente-t-il comme de puissants motifs de son insolvabilité actuelle une femme en pleurs, un petit enfant qui commence à peine à parler, une jeune fille effrayée à qui il va ravir à la fois tous les moyens d'exister, en leur enlevant celui qui pouvait seul les leur procurer, sans perdre l'espoir de s'acquitter un jour. Sourd à leurs plaintes, fermant les yeux à ce spectacle déchirant, ce noble valet d'un créancier avide élève fièrement son âme au-dessus de tous ses petits motifs d'humanité et s'empresse de remettre entre les mains du geôlier sa misérable proie. En vain Sophie versait des larmes. En vain demeurait-elle aux genoux de sa tante, implorant sa pitié. Non moins aveugle à ses larmes, non moins sourde à ses supplications, cette grande politique se détermina à remettre ou plutôt sa nièce tremblante entre les mains du geôlier Blifil. Elle lui répondit avec beaucoup de chaleur « Bien loin, mademoiselle, que vous soyez ici la seule intéressée. Votre intérêt est le moins à considérer, et certes, il est le moins important. C'est l'honneur de votre famille qui est intéressé dans cette alliance, et vous n'en êtes que l'instrument. Pensez-vous, mademoiselle, que lorsqu'il se fait un mariage entre deux puissances, par exemple lorsqu'une fille de France épouse un enfant d'Espagne, on ne considère que l'intérêt de la princesse ? Non, c'est le mariage de deux royaumes plutôt que celui de deux personnes. C'est ce qui arrive dans les grandes familles telles que la nôtre. Ce que l'on considère surtout, c'est l'alliance des familles. Vous devriez donc vous occuper davantage de l'honneur de la vôtre que de votre propre intérêt. Et si l'exemple d'une princesse ne peut vous inspirer ces nobles sentiments, vous ne pouvez assurément vous plaindre de n'être pas plus maltraitée que toutes les princesses ne le sont communément. « J'espère, madame, s'écria Sophie en élevant un peu la voix, que je ne ferai jamais rien de déshonorant pour ma famille. Mais quant à M. Blifil, quelles qu'en puissent être les conséquences, mon parti est pris. Il n'y a pas de force humaine capable de me faire pencher en sa faveur. » M. Weston, qui s'était mis à portée d'entendre la plus grande partie du dialogue précédent, sentit alors sa patience épuisée. Il se précipita dans la chambre comme un furieux en s'écriant « Que je sois damné si elle ne l'épouse. Que je sois damné si elle ne l'épouse. Voilà tout, voilà tout. Que je sois damné si elle ne l'épouse. » Mrs. Weston avait en réserve une bonne portion de colère qu'elle destinait à Sophie. Elle la tourna contre M. Weston. « Mon cher frère, dit-elle, il est bien étonnant que vous veniez vous mêler d'une affaire de la négociation de laquelle vous m'aviez totalement chargé. L'honneur de ma famille m'a fait prendre sur moi d'accepter en ceci le rôle d'une puissance médiatrice, pour pouvoir parvenir à rectifier les erreurs que vous avez commises en politique dans l'éducation de votre fille. Car, mon frère, c'est vous, c'est votre sotte conduite qui a déraciné toutes les semences que j'avais fait germer dans son âme tendre et sensible. C'est vous, vous-même, qui lui avez appris à vous désobéir. » « Par le sang !» s'écria M. Weston, écumant de rage. « Il ne faudrait que vous pour lasser toute la patience du diable. Peut-on dire que j'ai enseigné la désobéissance à ma fille ? La voici, vous allez voir. Allons, ma fille, dites la vérité. Vous ai-je jamais commandé de me désobéir ? N'ai-je pas tout fait, au contraire, pour m'accommoder à votre humeur, pour satisfaire tous vos désirs, enfin pour vous rendre obéissante à mes volontés ? Et elle m'obéissait très ponctuellement quand elle n'était qu'un enfant. avant que vous la prissiez sous votre tutelle et que vous l'eussiez gâtée en lui remplissant la tête de toutes vos belles manières de la cour. À quoi bon tout cela? À quoi bon? À quoi bon? Ne vous ai-je pas fort bien entendu lui dire qu'elle devait se conduire comme une princesse? Vous avez fait de ma fille une ennemie de l'autorité légitime, un Whig enfin. Et comment son père ou tout autre pourrait-il en espérer quelque obéissance? Mon frère, répliqua Mrs. Weston avec un grand air de supériorité, je ne puis vous exprimer tout le mépris que m'inspire votre politique en tout genre. Mais j'en appelle contre vous à la jeune personne elle-même. Elle peut dire si je lui enseignais jamais aucun principe de désobéissance. Répondez, ma nièce. N'ai-je pas fait tous mes efforts pour vous donner une idée vraie des différents rapports qui existent entre les créatures humaines dans la société? N'ai-je pas pris des peines infinies pour vous démontrer que la loi de la nature a enjoint aux enfants d'obéir à leurs parents? Ne vous ai-je pas instruite de ce que Platon dit à ce sujet, et que chacun m'en est témoin, quand j'ai voulu bien me charger de vous pour la première fois, vous l'ignoriez, au point que je crois en vérité que vous n'aviez aucune idée du genre de parenté qui existe entre une fille et son père. C'est un mensonge, répondit M. Weston. L'apprenez-vous pour une sotte? Je vous dis, moi, qu'elle n'avait pas attendu 11 ans pour savoir qu'elle était parente de son père. En vérité, les Gaux n'étaient pas si ignorants que vous, mon frère, répondit Mrs. Weston. Et quant à vos procédés, je dois vous dire qu'ils mériteraient des coups de canne. Eh bien donc, vous pouvez m'en donner, si vous croyez en avoir la force, s'écria M. Weston. Je suppose que votre nièce ici présente s'empressera de vous aider. Mon frère, dit Mrs. Weston, quoique je vous méprise au-delà de toute expression, je n'endurerai pas plus longtemps vos insolences. Je veux donc qu'on mette mes chevaux à l'instant, car je suis déterminé à quitter le château ce matin même. Et ce sera un bon débarras, répondit-il. Je ne puis supporter plus longtemps vos insolences. Ah, vous en venez à ce point, morbleu. Et cela seul ne suffirait-il pas pour que ma fille me prie pour un imbécile, de vous entendre dire à chaque minute que vous me méprisez? Il est impossible, s'écria la tante, il est impossible de ne pas mépriser un ours tel que vous. Un ours, s'écria M. Weston. Je ne suis pas un ours, ni un rat, non, madame, ni un rat, souvenez-vous-en bien. Je suis un véritable Anglais, et point de votre chienne de race hanovrienne qui a ruiné l'Angleterre. Oui, s'écria-t-elle, tu es un de ces sages dont les principes absurdes ont perdu l'État, en affaiblissant le pouvoir du gouvernement dans l'intérieur, en décourageant nos amis et en encourageant nos ennemis du dehors. Oh, vous en revenez à votre politique, s'écria M. Weston. J'en fais aussi peu de cas que de ma pantoufle. Il accompagna ce dernier mot du geste le plus méprisant. Que ce fut le mot ou le geste qui choqua davantage Mrs. Weston, c'est ce que je ne puis décider. Mais elle se mit dans la plus violente fureur, prononça des phrases qu'il serait indécent de rapporter ici, et sortit précipitamment du château. Ni son frère ni sa nièce ne jugèrent à propos de l'arrêter ou de la suivre. L'une était si troublée, l'autre si forte en colère, qu'ils demeurèrent tous deux presque sans mouvement. Mrs. Weston ne fut pas plus tôt partie que son frère fit entendre le même cri de chasse qui accompagne toujours le départ d'un lièvre, au moment qu'il se lève devant les chiens. Il possédait au suprême degré ce genre de musique, avec toutes les variations convenables aux diverses circonstances de la vie. Les femmes qui, comme Mrs. Weston, connaissent le monde et se sont appliquées à la philosophie et à la politique, auraient profité sur le champ de la disposition d'esprit où se trouvait alors M. Weston, en glissant adroitement dans la conversation quelques compliments sur son esprit, aux dépens de son adversaire qui venait de sortir. Mais la pauvre Sophie était la simplicité même. Et par ce mot, nous n'avons pas le projet d'insinuer au lecteur qu'elle fut une sotte, expression généralement considérée comme synonyme du mot simple. Car elle avait beaucoup d'esprit et le jugement le plus parfait. Seulement, elle ne possédait pas cet art utile que les femmes savent si bien employer dans le monde pour l'exécution de leurs sages desseins, et qui, prenant sa source dans le cœur plutôt que dans la tête, est souvent le partage des plus sottes d'entre elles.